Vous écoutez, on lit pour vous.
Gourou, secte, politique et dissonance cognitive. Un texte de Boukhard Diouf, paru le 27 septembre 2025 dans La Presse. Vers la fin des années 1950, un psychologue social américain, Leon Festinger, alors professeur à l'Université Stanford, propose la théorie de la dissonance cognitive. Dans sa définition la plus simplifiée, ce concept dit que lorsque nos croyances, nos valeurs ou nos comportements sont en contradiction avec les faits, ils provoquent un malaise psychologique. La personne ainsi affectée cherche alors à retrouver son homéostasie neuronale. Pour rétablir cet équilibre, son cerveau dispose de deux voies principales. Il peut aligner ses actions sur ses convictions profondes et revenir à la raison. C'est le chemin de la sagesse. Cependant, la posture la plus facile consiste à modifier ses croyances pour se convaincre qu'on n'a rien à se reprocher. C'est le chemin de l'auto-justification ou du déni. Par exemple, pour contrer les preuves scientifiques qui associent la cigarette à certains cancers, c'est cette part de notre cerveau qui amène un grand dépendant à la nicotine à vous citer l'exemple de son grand-père qui a fumé jusqu'à l'âge de 95 ans. Une autre personne, adepte de malbouffe, vous dira que, de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. Les situations de dissonance cognitive activent le cortex singulaire, une zone du cerveau dont le neuroscientifique Sébastien Bowler dit qu'elle déteste l'incertitude, la contradiction et le manque de sens. Le cortex singulaire chercherait la cohérence et la raison. En toutes circonstances, il travaille donc à endiguer les dissonances, à réduire les niveaux d'incertitude dans le cerveau et à trouver une certaine adéquation entre ce que la personne fait et ce qu'elle pense ou croit. Pour recouvrer cet équilibre, dit l'auteur, le plus souvent, c'est la pensée qui s'aligne sur les actes. On rationalise pour chasser l'inconfort, un peu comme le caméléon adapte sa couleur à son environnement. La dissonance cognitive trouve un grand terrain d'expression dans le domaine politique. C'est probablement elle qui explique que Mark Carney continue de croire que le fait de se plier aux moindres demandes de Donald Trump l'aidera à tomber dans ses bonnes grâces. C'est probablement aussi cette part de notre cerveau qui permet à Stephen Guilbeault de continuer à profiter des privilèges de son engagement en politique, tout en tournant le dos à la première raison de cet engagement. Malgré l'abandon de la tarification du carbone pour les particuliers, la suspension du mandat de vente de véhicules zéro émission, la promesse de construire un nouvel oléoduc vers la côte de la Colombie-Britannique, la volonté de raccourcir et simplifier les évaluations environnementales des grands projets d'intérêt national qui est inscrite dans la loi sur l'unité de l'économie canadienne de M. Carney, Stephen Guilbeault, naguère grand défenseur de l'environnement, trouve encore des chemins de réconciliation entre sa limousine et ses convictions de militant écologiste. Que voulez-vous? La guerre commerciale de Donald Trump a le dos assez large pour expliquer bien des incohérences. Elle sert de bouclier argumentaire pour justifier ce regrettable virage à droite du gouvernement de Mark Carney, surtout en ces temps où le Canada est sévèrement malmené par les incendies de forêt. Il reste tout de même à espérer que Stephen Guilbeault fasse partie de ce caucus dissident qui cherche à remettre la crise environnementale dans les priorités de M. Carney. Je crois aussi que c'est dans la dissonance cognitive qu'il faut chercher les fondations du mouvement MAGA, Make America Great Again. Les adeptes de ce mouvement de plus en plus sectaire, qui mêle religion et politique, seraient des cobayes de prédilection pour des projets d'études portant sur ce phénomène. La capacité des militants trumpistes à apaiser leur cortex singulaire grâce à des acrobaties intellectuelles et des théories complotistes des plus invraisemblables est sans limite. Quelques exemples pour étayer mon affirmation. Les militants MAGA croient que Donald Trump veut protéger les personnes vulnérables de son pays contre le fentanyl, mais ne voient pas de mal à ce qu'il parle de nettoyer les villes de ces indésirables qui vivent dans des conditions horribles et dégoûtantes. Ils militent vivement pour les droits du fœtus, mais les droits des anciens fœtus qui vivent et meurent par milliers et de façon inhumaine dans les rues des métropoles américaines, les laissent de marbre. Ils pleurent la disparition dramatique de Charlie Kirk, mais ne veulent pas entendre parler du contrôle des armes à feu qui font des dizaines de milliers de victimes annuellement aux États-Unis. Ils sacralisent la liberté d'expression, mais ne s'indigne pas quand Donald Trump menace de retirer des licences aux réseaux de télévision, se réjouit du congédiement d'animateurs qui le critiquent ou intente des poursuites de millions ou de milliards de dollars contre des groupes de presse pour les museler. Ils sont obsédés par la fameuse liste des clients de Jeffrey Epstein, mais la complicité de Donald Trump avec le défunt criminel sexuel et sa signature pubis sur une carte où il parle de leur secret n'arrive pas à éveiller le moindre soupçon dans leur esprit. Ils parlent ad nauseam de valeurs morales, mais arrive à fermer hermétiquement les yeux sur les scandales sexuels et les crimes financiers de Donald Trump. Ils se présentent comme les chantres du respect des institutions, mais considèrent l'assaut du Capitole comme un geste hautement patriotique. Ils prônent un retour au civisme. Mais Donald peut insulter violemment des femmes et des migrants sans que ça les dérange. La branche religieuse du mouvement MAGA présente le mensonge comme un péché capital. Mais les milliers de mensonges que profère Donald Trump ne les dérangent pas tant qu'ils lui permettent de s'approcher du pouvoir. Ces religieux prêche le pardon. Mais quand Donald Trump dit haïr ses ennemis au point d'être incapable de leur pardonner, il garde un silence complice. Parmi ceux que M. Trump cherche à détruire, il y a Mitt Romney, Liz Cheney, Adam Kinzinger, Mike Pence, Hillary Clinton, Nancy Pelosi, Joe Biden, Jack Smith, James Comey, John Bolton, Michael Cohen, Anthony Fauci, etc. Pour couper court à cette liste loin d'être exhaustive, disons simplement que le mouvement MAGA a poussé le concept de dissonance cognitive à son paroxysme. Ici, le mot d'ordre consiste à adapter son discours aux humeurs du gourou. Quand ce dernier parle de l'arnaque verte et raconte, la main sur le cœur, que les prédictions climatiques de l'ONU ont été faites par des gens stupides qui ont ruiné la fortune de leur pays, la magasphère applaudit. Pourtant, ces gens stupides dont parle Trump sont très majoritairement des scientifiques américains dont les modèles de prédiction climatique sont jusqu'à maintenant d'une incontestable robustesse. Mais, dans le trumpisme, pour apaiser les cortex singulaires, il faut enterrer les preuves, dénigrer les sources, relativiser les évidences, mais surtout rejeter constamment la faute sur les autres. Lorsque le gourou de cette secte est pris en flagrant délit, Biden, Obama, Harris, les personnes trans, ce qu'il appelle la gauche radicale, la crise climatique et la Chine servent à apaiser ses tensions psychologiques et celles de ses fanatiques supporters. C'était Gourou, secte, politique et dissonance cognitive. Un texte de Boukhar Diouf paru le 27 septembre 2025 dans La Presse.
Cent ans sans solitude. Un texte de Karine Tremblay paru le 9 novembre 2025 dans La Tribune. Lionel Leroy et Serge Gauthier n'ont aucun lien de sang, mais ils agissent l'un envers l'autre comme père et fils. C'est avec Serge que j'ai d'abord discuté. Il m'a parlé de la gentillesse de Lionel, qui a eu 100 ans l'été dernier, et dont il a été l'aidant naturel pendant quelques années, lorsque le vieil homme était encore assez autonome pour demeurer chez lui. Je me suis rendu au CHSLD, où vit désormais le centenaire, pour les rencontrer tous les deux. J'ai été touché par la force du lien entre eux. Cette attention à l'autre, généreuse, qu'ils ont eue chacun à leur tour, chacun leur temps. Le visage de Lionel s'éclaire lorsqu'il voit entrer Serge. C'est sa nièce Renée qui nous accueille. L'après-midi a des airs de retrouvailles familiales. Dans la petite chambre du pavillon Ergil, la fenêtre laisse entrer un filet de lumière. Quelques photos au mur et sur la table de chevet racontent différentes époques, différents pans de vie. Ici, ce sont mes cousins Denis et Daniel, les deux fils de Lionel, pointe René. Denis a un sourire franc sur le cliché. Le même qu'à l'époque de l'école secondaire où Serge et lui se sont connus. Ils sont vite devenus d'inséparables amis. Citation. La première fois que je suis allé chez les rois, je devais avoir 15 ans. C'était du monde vraiment gentil, on se sentait bien chez eux, raconte Serge, fin de citation. Il ne le savait pas encore, alors, mais il venait de trouver une seconde famille, en quelque sorte. L'amitié créée avec le clan roi a traversé les décennies et les épreuves. La plus grande, la plus terrible, c'est sans doute la mort de Denis en décembre 2007. Citation. C'était complètement inattendu. Il a eu un arrêt cardiaque alors qu'il se trouvait en voyage en Thaïlande à l'âge de seulement 48 ans. Résume Serge, fin de citation. Le choc a été grand. Ça aurait pu marquer un éloignement, mais non. Citation. Serge n'a jamais oublié un anniversaire. Il a toujours gardé contact avec notre famille. indique René, fin de citation. Autre citation, lorsqu'il était étudiant, c'était déjà un jeune homme sage et très poli, toujours à l'écoute des autres, se souvient Lionel Roy. Fin de citation. Sa mémoire des événements récents est parfois chancelante, mais il se rappelle de chaque moment de son passé au sein d'une fratrie de 5 garçons, 4 filles. L'écouter évoquer ses souvenirs, c'est comme plonger dans un roman d'époque. Citation. J'étais le 4e de la famille. On était occupé avec la ferme et les chantiers dans le bois, dans le coin de Saint-Élie. On prenait soin de nos animaux. Il y avait là une grande liberté, même si c'était beaucoup de travail. Fin de citation. La débrouillardise était une dame de compagnie obligée, dans ce temps-là où il n'y avait pas de commodité et où tout était fait à la main. Citation. La pauvreté était partout, mais on ne manquait de rien. En campagne, tout le monde s'aidait, insiste Lionel. Fin de citation. Le premier petit luxe est venu tard. Citation. Mon père a été le premier dans le rang à avoir la télé. On n'avait pas encore l'électricité, alors c'était une télévision en batterie. Elle servait seulement à écouter ce qui en valait la peine. Fin de citation. Ce qui en valait la peine, pour Lionel, avait le nom de Séraphin Poudrier. Il sourit encore en repensant aux épisodes du téléroman, ajoute que dans cette hier de l'autre siècle, il y avait peu d'agréments pour se changer les idées au quotidien. Citation. C'était pas compliqué. On réunissait la famille et on faisait de la musique. Un soir chez l'un, un soir chez l'autre. On dansait les 7 carrés. C'était ça, nos veillées. Fin de citation. Dans l'éventail de ses souvenirs, il y a un événement qui a bousculé son parcours et marqué au fer rouge l'année de ses 7 ans. Citation. Ça s'est passé près de l'école. Les plus grands nous donnaient souvent des coups de pied pour nous embêter. Cette fois-là, ils m'ont cassé une jambe. Dans le temps, il fallait marcher 2 miles et demi pour se rendre en classe, sur des chemins qui n'en étaient pas. Je braillais. J'avais terriblement mal. J'ai eu de la difficulté à rentrer chez moi. Après ça, j'ai été 2 ans sans pouvoir aller à l'école, et je pense que c'était ça, le pire. Fin de citation. Lionel Centenaire. Sa jambe est encore marquée par le traumatisme. Un trou plus gros qu'une balle de golf déforme son mollet. Citation. Ça faisait mal, quelque chose de lettre. Des morceaux d'os sortaient de la plaie. Ça ressemblait à des arêtes de poisson. Le docteur a dit à mes parents que je devais rester tranquille. Je voyais les autres enfants jouer et moi, je ne pouvais rien faire. Fin de citation. Une vieille chaise de cuisine sans dossier est devenue la marchette sur laquelle il s'appuyait. La famille a consulté un ramancheur. C'était au-delà de ses compétences. Citation. Il nous a envoyé voir un monsieur qui avait appris à soigner les fractures des moutons chez les cultivateurs. Il me parlait en faisant des manœuvres. Il m'a strappé la jambe, m'a dit que ça irait. Ça a finalement guéri. Fin de citation. Lionel Roy. Le retour à l'école a été heureux, mais trop court. C'était l'époque. Citation. À partir du moment où tu étais capable de lever une hache, l'école était finie. J'ai juste une 4e année. À 14 ans, je travaillais. J'ai été chanceux. Je suis rentré chez Bell, où j'ai été monteur de ligne toute ma vie, malgré mon handicap. Fin de citation. Monteur de ligne, ça voulait dire grimper dans les poteaux, éperon au pied. Citation. Je n'avais pas peur des hauteurs. Même qu'à Noël, j'avais installé un sapin illuminé sur le toit de l'église Marie-Médiatrice de la rue Galt, sans le dire à personne. J'avais eu la permission de mes patrons de prendre l'échelle du camion. Il n'y avait qu'avec ça qu'on pouvait monter aussi haut. Fin de citation. Lionel Roy. L'arbre scintillant attirait les regards autant que les commentaires. Citation. Les gens ne comprenaient pas comment il avait pu se retrouver là. « Je ne m'en suis pas trop vanté. » Fin de citation. « Il n'a pas, guillemets, je ne sais, fin de guillemets non plus, » m'assure-t-il en précisant qu'il a rencontré sa Jeannine alors qu'il travaillait déjà chez Bell lors d'un contrat à East Broughton. Ils se sont mariés en 1952 et ont passé toute leur vie ensemble. Regard posé sur leur portrait de ce jour-là, en noir et blanc. Une larme mouille la joue de Lionel. Citation. « C'était une roi, elle aussi. Elle a pris mon nom et a gardé le sien. » En février 2020, juste avant la pandémie, Jeannine a dû aller vivre en foyer. C'est après ce moment-là que Serge est devenu l'aidant naturel de Lionel. Citation. Daniel, le frère de Denis, habite à Vancouver. Il m'a demandé si je pouvais prendre soin de son père. J'ai dit oui. Fin de citation. Pendant 3 ans, tous les jours de la semaine, Serge rendait chez Lionel, faisait son dîner, son souper, ses courses et l'amenait à ses rendez-vous. Citation. On allait aussi voir Jeannine. Fin de citation. Il croisait souvent René, qui, elle, s'est occupée de sa tante jusqu'à son décès en 2023. C'est fort, les liens du cœur. Quand ça génère autant de générosité intergénérationnelle, c'est touchant à voir. Citation. Elle m'a beaucoup donné, lui aussi, intervient Serge. Quand mes enfants étaient bébés, sa femme et lui les ont gardés. Ils étaient un peu comme d'autres grands-parents. Fin de citation. Lionel est ému. Souvent, pendant la rencontre, il s'étonne de recevoir autant d'attention. Sa nièce lui répond avec douceur qu'il récolte ce qu'il a semé. Citation. « Tu ne connais pas la rancune. Je ne t'ai jamais vu fâché. » Fin de citation. Le vieillard sourit, résume ce que lui ont appris 100 ans de vie. Citation. « Ma mère disait qu'on n'avait pas le temps pour ça, se fâcher ou chialer. » Elle avait raison. On traverse toutes sortes de choses, mais il faut continuer d'avancer en acceptant ce qui arrive. Fin de citation. C'était « 100 ans sans solitude », un texte de Karine Tremblay paru le 9 novembre 2025 dans La Tribune.
Ex aequo, nos membres ressentent déjà les effets négatifs des changements climatiques, un texte d'Aline Van Compernol, agente de communication, paru dans Paraquad numéro 168, automne 2025, hiver 2026. Quand l'organisme de défense des droits montréalais, Ex aequo, a voulu interroger ses membres sur le sujet de la transition écologique, voici quelques années, peu se sont montrés intéressés. Frédéric Vachon, organisateur communautaire, en poste depuis le début de la pandémie, se souvient que souvent, ils ne voyaient pas le lien entre leur situation au quotidien et l'état de la planète. Beaucoup ignorent la situation et l'impact sur leur vie, même s'ils ressentent déjà les effets des changements climatiques. Nous remarquons, à chaque année, que des membres manquent à l'appel et nous avons du mal à expliquer ces disparitions, explique Frédéric. Il explique que les conséquences des changements climatiques sont bien présentes, comme les vagues de chaleur ou de froid qui provoquent des pannes d'électricité et desquelles il est difficile de se mettre à l'abri. L'organisateur communautaire, personnellement sensible à la transition écologique, a pu constater le manque d'intérêt pour le sujet autour de lui. Il affirme que les groupes environnementalistes semblent malheureusement déconnectés du milieu communautaire des personnes à mobilité réduite et inversement. Le sujet est à peine abordé. Il y a seulement un début d'intérêt, même dans la recherche. Pourtant, Les personnes en situation de handicap sont les premières victimes des injustices climatiques, explique Frédéric. Un partenariat avec le projet Ouranos et l'équipe de Sébastien Joudouin. L'an passé, l'équipe d'Execuo a assisté à une conférence de Sébastien Joudouin, juriste et chercheur, seul spécialiste du domaine dans la province. Le chercheur lui-même reconnaît que les gens ne font souvent pas le lien entre handicap et climat. J'ai rencontré des personnes qui sont des activistes climatiques et qui ont un handicap, mais qui n'avaient jamais fait le lien entre les deux. Les chiffres présentés par Sébastien Joudouin sur la vague de chaleur de Vancouver, qui a fait 90% de victimes en situation de handicap en 2023-2024, ont bouleversé l'équipe d'Execuo. C'est ce qui l'a poussé à s'engager pour aider les Montréalais. Execuo est depuis partenaire du projet Ouranos, qui vise à analyser, à partir de cet automne, les changements climatiques du point de vue du handicap à Montréal, Toronto et Vancouver. Pour Frédéric Vachon, la lutte commence trop tard et à trop petits pas, mais les recherches permettront de présenter des statistiques aux dirigeants politiques. Des canaris dans la mine. L'organisateur communautaire s'explique. Dans les municipalités, les plans de crise qui sont proposés ne correspondent pas à toutes les personnes. Les élus ne pensent pas à la façon de faire sortir les personnes en fauteuil roulant d'un bâtiment, par exemple. Ce sont à nous, responsables politiques, de s'assurer que l'environnement convient à tout le monde pour que les gens vivent sainement. Pourtant, les canaris dans la mine, ce sont nos membres. Note de la rédaction. Autrefois, les mineurs emportaient des canaris dans les mines de charbon, car les gaz toxiques tuaient les oiseaux avant les mineurs. Les signes de détresse de l'oiseau indiquaient aux mineurs que les conditions n'étaient plus sûres. C'était Execuo, nos membres ressentent déjà les effets négatifs des changements climatiques, un texte de Aline Vanco-Pernol, agente de communication, paru dans Paraquad numéro 168, automne 2025, hiver 2026.